Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. À l'intérieur du camp de Drancy, c'est le titre du livre qui est au sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Drancy, qui maintenant est comme le Veldiv, un synonyme de la déportation des Juifs de France, un lieu dont 67 000 déportés sont partis et dont moins de 2 000 sont revenus. Cet ouvrage, à l'aide de sources parfois inédites, se veut exhaustif et propose une synthèse de ce qui fut l'histoire de ce camp. On comprend qui fut interné, comment le camp était administré, comment les rôles se partageaient entre les autorités françaises et allemandes. On y distingue les époques successives de la vie de ce camp, qui fut un camp de représailles, un camp de transit et un camp de concentration. On y découvre une vie quotidienne du plus tragique au plus trivial, la famine, la crasse, la folie qui guette et la déportation. On y retrouve la multiplicité des formes du judaïsme, la variété des classes sociales, des nationalités, de ces hommes, femmes, enfants et vieillards persécutés parce que nés juifs ou considérés comme tels. Avec nous pour comprendre les enjeux de cette histoire, les auteurs du livre, Annette Vivorka et Michel Lafitte. Bonjour.
Bonjour.
Alors, dans votre introduction, vous citez l'atelier de Jean-Claude Grimbert et la place de Drancy dans la mémoire collective comme symbole de la déportation des Juifs de France. Comment vous avez voulu finalement construire ce livre avec cette idée en tête ? Allez-y. Annette Vivorka.
Alors, on cite effectivement cette scène très célèbre du non moins célèbre atelier de Jean-Claude Grimbert, qui est celle dite du certificat de décès, quand l'héroïne, en fait, la mère de Jean-Claude Grimbert, reçoit un certificat comme quoi Zachary Grimbert serait mort à Drancy. Et on est donc parti de cette idée que dans la mémoire collective, Drancy était uniquement un lieu de transit où l'on passait pour aller mourir principalement à Auschwitz-Birkenau, alors qu'en fait, il a une histoire longue, une histoire qui commence en ce qui concerne l'internement des Juifs en août 1941, pour se terminer, grosso modo, un tout petit peu avant la libération de Paris.
Michel Lafitte, peut-être pouvez-vous nous expliquer aussi pourquoi il n'y avait pas jusque-là une synthèse de ce type autour de l'histoire de Drancy.
Il y avait une monographie de Maurice Reichfuss,
oui.
qui a été publiée, je crois, en 1991, qui était une monographie très polémique au départ. Il s'intéressait à l'histoire de la police de Vichy. Et Maurice Reichfuss, qui est lui-même un enfant de victime, à travers son livre, évidemment, c'est la polémique et puis c'est aussi la souffrance. Maurice Reichfuss n'a pas eu accès à toutes les sources. Depuis ont été publiés les journaux de Georges Kohn et de Monteil, qui étaient des dirigeants de l'administration juive du camp. Le journal de Benjamin Schatzmann, qui a été publié dans les années 90. Nous avons eu la chance, grâce à Karen Taïeb, la responsable des archives du mémorial de la Shoah, d'avoir exploité des correspondances assez singulières, comme celle de Paul Zuckerman, qui a été adjoint du commandant de l'administration juive du camp de l'automne 1941 jusqu'à sa libération du camp au mois de septembre 1942, quand il rejoint l'UJIF. Et puis, évidemment, nous avons pu exploiter une source qui venait d'être publiée, ou qui allait être publiée, bien sûr, la correspondance de Zachary Mass, le point de vue des médecins du camp. Par contre, concernant la période Brunner, à partir de juin 1943, le moment où les SS s'emparent de l'administration intérieure du camp, nous avons déjà moins de sources.
Alors, ce qui est très intéressant dans ce livre, et ce qui est une découverte, j'imagine, pour certains lecteurs qui vont le lire, c'est la succession des époques, comment ce camp est successivement un camp de représailles, un camp de transit, un camp de concentration, et donc au départ aussi, alors on l'oublie, un camp de prisonniers de guerre.
Absolument. Je crois que c'est le seul camp de tout le système d'internement qui a existé en France pendant Vichy et l'occupation allemande, qui est comme ça cette histoire. d'abord effectivement un stalag, un front stalag, comme on disait, avant d'envoyer les prisonniers dans les stalags en Allemagne. Et puis, le camp est pendant un certain temps vide, et il est ensuite rempli par des juifs qui sont arrêtés en masse dans ce qu'on appelait la rafle de Drancy, par métonymie, en prenant le nom du lieu où on les conduit.
Et du 11e se déroule, arrondissement, au départ.
11e arrondissement, et qui se déroule à partir du 20 mai. C'est la deuxième grande arrestation de masse après celles qui ont rempli les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande en mai 41.
Voilà, c'est effectivement la deuxième arrestation entre le 20 et le 23 août 1941. La première rafle au mois de mai 41 avait touché uniquement des artisans étrangers, des hommes adultes. Il y avait une grande homogénéité dans la composition des camps du Loiret, alors que le camp de Drancy, c'est un camp très composite. On arrête pour la première fois des hommes juifs français, ce qu'on appelle les Israélites à l'époque, et ils sont mêlés aux juifs étrangers pour la première fois, et on retrouve dans la composition du camp de Drancy une sorte de société juive en microcosme.
Oui, vous décrivez ça effectivement dans le livre. Alors c'est très frappant quand on lit ça aujourd'hui, des clivages s'installent. Et puis il y a les Juifs de Belleville, les Juifs de Ménilmontant, les Juifs de Saint-Paul. Comme ça, ils se baptisent à l'intérieur du camp.
Et les Juifs qui ne se sentent plus du tout Juifs, et qui sont d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, convertis au protestantisme ou au catholicisme, et qui sont désignés comme Juifs par des définitions qui sont celles données par Vichy ou par les Allemands.
Alors peut-être vous pouvez nous raconter ça, nous expliquer comment se met en place cette espèce de société composite à l'intérieur du camp, avec ses hiérarchies, avec ses clivages sociaux, et puis alors ce qu'on voit aussi dans le livre, ces espèces de castes. Il y a les avocats d'un côté, il y a les médecins qui s'occupent de tout ce qui est de l'infirmerie, du soin dans les camps. Ça c'est des choses aussi qu'on ne connaissait pas de la vie intime, interne de ce camp de Drancy. Michel Lafitte.
Alors la première administration juive du camp se met en place dès les premières semaines. Ça reste un mystère pour certains. Est-ce qu'ils s'autoproclament chef de chambrée, etc. En tout cas, il y a toute une hiérarchie qui se met en place avec un premier chef de camp, qui est un négociant qui s'appelle Alfred Asken. Et une hiérarchie de chefs d'escalier, de chefs de chambrée. Rappelons que les escaliers correspondent à des entrées du bâtiment. Ils sont numérotés de 1 à 22. Et dans chaque escalier, il y a un chef d'escalier. Et à l'intérieur des escaliers, il y a différentes chambrées avec des chefs de chambrée qui se désignent entre eux. Évidemment, dans la vie des internés de Drancy, il n'y a aucune démocratie. C'est d'emblée un régime militaire qui est imposé par les Allemands, qui ont le pouvoir de décision. Et ces internés juifs du camp qui peuplent l'administration juive n'ont évidemment aucun pouvoir de décision. Ils sont là comme un intermédiaire obligatoire entre la masse des internés, surtout les juifs étrangers, et Vichy, puis les Allemands.
Annette Burka.
Ce qui frappe dans la première période de la vie du camp, c'est que à partir du 20 janvier du 20 août, excusez-moi, au petit matin, des autobus déversent constamment des personnes qui ont été cueillies au sceau du lit, qui ont été arrêtées dans la rue, qui ne comprennent absolument pas pourquoi ils sont là, et que les autorités françaises ne sont pas non plus prévenus de ce qui se passe. Donc on a une sorte de pagaille invraisemblable, et c'est probablement de cette pagaille qu'émerge spontanément cette première administration. La pagaille, ça implique aussi qu'il n'y a rien, pas de couchage, pas de quoi manger, et que les premières semaines du camp, qui sont les semaines où l'on ne risque pas sa vie, c'est-à-dire où on ne prend pas d'otages à Drancy et où on ne déporte pas, sont pourtant les semaines où la vie est la plus terrifiante, puisqu'on n'avait pas vu ça depuis deux siècles. En France, on meurt de faim à Drancy. Revient la famine qui avait disparu de notre pays.
Oui, et ça, vous l'expliquez bien dans les livres, c'est l'incurie de l'administration et de ce camp qui se met en place, qui en est encore à ses débuts, et d'une administration, vous le précisez bien, une administration qui est un commandement allemand sous une surveillance française. C'est-à-dire que ça, il faut bien le garder en tête aussi.
Oui, effectivement, c'est la préfecture de la Seine qui est chargée de l'approvisionnement du camp et rien n'a été prévu, il n'y a pas de budget et pendant les premières semaines, c'est une situation de disette qui dégénère en famine. Fin octobre, il y a une quarantaine de morts de famine, effectivement. Et la famine se termine quand les colis alimentaires sont autorisés. D'abord, ils sont portés par les familles d'internés, puis par le biais des œuvres juives qui sont réunies au sein de l'Union générale des Israélites de France, qui a été une structure obligatoire créée par Vichy en novembre 1941 et qui achemine ainsi les colis. Et c'est les œuvres juives elles-mêmes qui permettent de mettre fin à cette situation de famine vers le mois de décembre 1941. Et c'est ce mois de décembre 1941 où on commence à fusiller les otages qui sont prélevés dans le camp.
Oui, le camp qui est alors donc un camp de représailles.
Oui, alors je crois qu'on a oublié comme ça dans le feu de notre discussion un des acteurs essentiels, ou plutôt des acteurs essentiels qui sont les forces de l'ordre françaises. Puisque c'est un camp qui est sous commandement allemand, avec très probablement des bisbilles entre les services spécialisés dans les affaires juives et le commandement militaire allemand. Mais en dessous, on a d'un côté les gendarmes qui ont en charge la garde extérieure et la garde intérieure du camp, mais qui sont placés sous le commandement de la préfecture de police. Et le commandant du camp est nommé par la préfecture de police. Et ce, jusqu'en juin 1943, où là, on n'a plus qu'un face-à-face entre les Allemands et les Juifs.
Oui, ça c'est un moment de bascule sur lequel il faut insister, ce moment où, alors ça sera plus tard demain, mais en tout cas où ce moment où Alois Brunner en juillet 1943 est au commandement de ce camp, et où finalement il n'y a plus d'intermédiaires autres que les SS et les Juifs internés dans le camp, et où Alois Brunner tente de mettre en place une administration et un fonctionnement de camp de concentration, sur le modèle de ce qui se passe dans les camps de l'Est, avec effectivement des internés qui administrent pratiquement le camp sous les ordres des SS. Michel Lafitte.
Oui, effectivement, mais l'administration juive internée existe déjà dans les débuts du camp. Et effectivement, à partir de l'arrivée des SS, c'est une administration originale, dans la mesure où ceux qui sont choisis, c'est ceux que l'on appelle les compiègnois, c'est des anciens internés du camp de Compiègne qui arrivent, qui ont une connaissance de l'allemand, ce qui marque la volonté des SS de trouver des interlocuteurs directs. Les gendarmes français sont repoussés à la garde extérieure du camp. Et effectivement, ils confient à cette administration internée la marche administrative du camp. Et c'est bien le système du camp de concentration, c'est-à-dire les SS résident à l'extérieur.
Et on pourrait ajouter qu'ils sont aussi extrêmement peu nombreux. Ouais. À une période d'ailleurs où les Juifs sont relativement peu nombreux eux aussi, parce que l'arrivée de Brunner et sa prise en main de Drancy marquent l'idée qu'il faut, pareil, de façon un peu vulgaire, qu'il faut booster la solution finale. La déportation ne suit pas le rythme qu'il souhaiterait. Et c'est le sens de son arrivée et de la transformation de Drancy.
Oui, Brunner est une sorte de professionnel de la déportation qui a fait ses armes, qui vient de faire ses armes à Salonique, où il a fait déporter la communauté juive de Salonique à Auschwitz au printemps 1943. Et il arrive à Drancy, donc au mois de juin.
Oui, et puis alors vous montrez aussi un autre moment important dans cette vision comme ça de l'histoire du camp de Drancy. C'est le moment à partir de l'été 42, quand les enfants, les femmes, les familles et les vieillards arrivent dans le camp. Quand ce camp, qui était un camp d'hommes pratiquement exclusivement, d'hommes valides pour la plupart, devient un camp de transit, effectivement, plus ou moins long pour certains des internés, mais en tout cas qui concerne toutes les strates de la population juive.
Ce que l'on voit grâce notamment à la correspondance de Paul Zuckerman et puis à d'autres témoignages plus anciens, enfin publiés de façon plus ancienne, notamment le témoignage de Georges Vélers qui garde toute sa valeur, ce que l'on voit, c'est comment on prépare ce camp à l'arrivée massive de femmes et d'hommes dans un premier temps célibataires, ou de couples mais sans enfants, puisque la rave du Veldiv est un moment où l'on met les familles au Veldiv et les célibataires ou les couples à Drancy. Donc les familles sont conduites ensuite dans ce qu'on appelle les camps du Loiret, Pithiviers, Beaune-la-Rolande, et c'est là qu'a lieu cet épisode particulièrement tragique où Laval suggère de déporter aussi les enfants, où Eichmann telex à Berlin. Et en attendant la réponse de Berlin, les enfants sont séparés de leurs parents, restent dans les camps du Loiret, alors que leurs parents sont conduits à Drancy et déportés. Et c'est dans les premiers jours d'août que ces enfants seront conduits seuls à Drancy. Et l'arrivée de ces enfants, nous apportons pas d'éléments nouveaux, je pense, sur cette arrivée, et probablement un des moments les plus poignants et bouleversants. C'est de cela dont Georges Vélers témoignera d'ailleurs au procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem.
Cette période de l'été 1942 est une période d'extrême violence où l'arbitraire des gendarmes qui s'étaient déjà donné libre cours au moment de la famine avec le trafic du marché noir qu'ils organisent eux-mêmes dans le camp, cet arbitraire des gendarmes atteint une sorte de paroxysme. On signale des cas de viol, du capitaine de gendarmerie vieux qui se garde un cheptel de femmes internées. C'est la période d'une recrudescence des suicides dans le camp, défenestrations d'internés qui s'écrasent sur la marquise qui borde la cour intérieure. C'est une période de profond désespoir où les familles sont séparées et où on se pose véritablement des questions. C'est ce dont témoigne le journal de Paul Zuckerman, où il essaie d'épouser la thèse officielle d'une déportation vers des colonies agricoles de l'Est, mais on sent à la lecture de sa correspondance qu'il n'y croit pas, qu'il n'y croit plus à ce mensonge officiel.
Non, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il n'y croit plus, puis brusquement, il y recroit. C'est-à-dire que je pense que le parti pris qui est énoncé dans le titre à l'intérieur du camp de Drancy, c'est-à-dire d'essayer de rester au plus près de ce qu'ont vécu les internés, montre très bien que sur cette grande question qui savait quoi, sur laquelle on débat sans fin, les choses ne sont pas simples. Et on débattra toujours, les choses ne sont pas simples, puisque au désespoir peut succéder de nouveau l'espoir. On peut prendre un certain plaisir à cette vie qui est une vie quand même très diminuée. Et on voit ça au fil des correspondances ou au fil des journaux.
Oui, ça c'est frappant. Il y a beaucoup dans votre livre, à tous les deux, il y a beaucoup d'extraits de correspondances, d'extraits de témoignages. Et on voit effectivement cette oscillation entre le désespoir, l'espoir, la description d'une vie quotidienne dans ce qu'elle peut avoir de trivial et parfois comme vous dites, d'agréable, entre guillemets, de plus ou moins agréable, et puis de moments de désespoir profond, de moments de folie, de moments où il y a ces vagues de suicide que vous évoquez. Et ça, c'est vrai que sur cette question de qu'est-ce qu'on sait, ça donne beaucoup d'éléments sur cette espèce de zone, finalement, assez incertaine entre ce qu'on sait, ce qu'on veut bien s'avouer, ce qu'on ne veut plus supporter comme vérité, ce qu'on ne peut pas supporter non plus comme avenir, comme vision d'avenir, en tout cas.
Ce qui est intéressant, notamment dans le journal de Paul Zuckerman, on est renseigné sur les rumeurs. C'est une communauté qui vit en vase clos. Même l'administration juive du camp, qui est l'intermédiaire avec les services de la préfecture de police, n'est pas trop au courant de ce qui se passe à l'extérieur. Par exemple, à un moment, en janvier 1942, je crois, le journal de Paul Zuckerman nous apprend qu'il y a une rumeur prégnante parmi les internés. Ils pensent, par exemple, que n'ayant pas vu d'Allemands depuis un certain moment, les Allemands ont quitté la France et que le maréchal Pétain revient à Paris pour rétablir une sorte de légalité républicaine. Il y a comme ça des rumeurs qui durent des jours, voire des semaines.
Alors, ce qu'il faut peut-être aborder aussi, si on en vient à la fin de Drancy, ce que vous décrivez très bien, c'est le rôle complexe, le rôle ambigu, parfois douloureux de l'UGIF, qu'on a évoqué au début de cette émission, donc l'Union Générale des Israélites de France, qui d'un rôle au départ où elle aide au fonctionnement, où elle aide à l'approvisionnement du camp pour les déportés, en arrive à un rôle de collaboration, vous le dites dans le livre.
On n'a pas dit ça, non. On n'a pas écrit ça. Et Michel Lafitte a fait sa thèse sur l'UGIF et écrit deux ouvrages. Et on n'a pas écrit ça, c'est un mot qu'on n'a pas utilisé.
Alors c'est un mot que je récuse.
Oui,
dans
non, mais
la récuser, mesure.
Vous faites bien, moi je regarde parce que j'avais entouré, donc je vais voir.
Dans la mesure, la collaboration suppose un choix que les Juifs n'avaient pas. Donc j'ai toujours refusé d'utiliser ce mot au sujet des responsables de...
Coopération, voilà, je m'excuse.
Cette collaboration alors, forcée.
Oui. Alors je crois qu'il faut quand même dire à quel moment on utilise ce terme.
C'est au moment de la
on
direction de Georges Edinger.
Au moment de la direction de Georges Edinger, c'est-à-dire au moment où tous les dirigeants historiques de l'UGIF ont été arrêtés et déportés, et arrêtés précisément parce qu'ils ont refusé
de collaborer. Voilà.
Et là, on a un homme qui va entraîner l'UGIF dans cette coopération.
Effectivement, il y a la période avant Georges Edinger, qui devient président de l'UGIF au mois de septembre 1943, au moment où la présidence de l'UGIF bascule de Marseille à Paris. Mais auparavant, toute la politique de Aloïs Brunner, à partir de juin 1943, c'est de faire fonctionner l'UGIF à partir du camp de Drancy. C'est pour ça qu'il fait arrêter André Bord, qui est vice-président de l'UGIF pour la zone nord. Et il fait arrêter les principaux responsables de l'UGIF. Il aménage pour André Bord un bureau au sein du camp de Drancy, puisque Brunner espère, via l'UGIF et ses bureaux, qui couvrent à peu près l'Hexagone, à l'exception des régions annexées ou de la zone nord sous administration de Bruxelles, il espère, via ses bureaux de l'UGIF, procéder à des rafles plutôt faciles. Et André Bord refuse. Arrive à ce moment-là au camp de Drancy Raymond Raoul Lambert, qui est le dirigeant de l'UGIF en zone sud, et pareillement Raymond Raoul Lambert va refuser de mettre les services de l'UGIF pour une politique d'arrestation, etc. Ils ont toujours refusé, d'ailleurs ils vont être déportés au mois de décembre 1943 avec femme et enfants.
Oui, c'est cette perversion, cette perversité des SS, des Allemands, d'essayer de mettre à contribution les internés, de faire un chantage.
Les faire participer au crime. C'est effectivement la grande perversité des Allemands qui est prolongée, d'ailleurs, par les négationnistes qui ont une espèce de jouissance à parler de l'UGIF et de cette capacité qu'avaient les SS à impliquer les victimes dans le crime.
C'est très curieux parce qu'en fait, le problème que pose l'UGIF, c'est le problème des œuvres caritatives, comme on ne disait pas à l'époque. On a une population entière qui est plongée dans la détresse matérielle. Donc les œuvres, c'est le seul moyen d'aider cette population. Mais en aidant cette population, est-ce qu'on n'empêche pas d'autres formes qui aurait été plus efficace face au danger d'arrestation? Mais ce danger, on ne le connaît pas. C'est-à-dire qu'en 1940, 41, personne ne peut imaginer qu'on a déporté. Et de façon très intéressante, je ne devrais jamais parler des livres des autres, parler que des nôtres, mais je retrouve exactement ce dilemme dans le formidable livre que Patrick Cabanel a consacré au Juste, qui vient de sortir. Et il montre que finalement, toutes ces œuvres caritatives, la CIMAD, les œuvres protestantes, les Quakers, qui se retrouvent dans les camps d'internement, qui aident, brusquement, elles vont se retrouver à essayer de sauver, au moment de la déportation, des gens. Mais en se posant cette question, est-ce que finalement, on fait bien ou pas d'être là à soulager la détresse, alors que ces gens sont menacés de quelque chose dont on ne sait pas trop ce que c'est. Donc je crois que le GIF s'est trouvé prise dans ce même dilemme, mais qu'à l'exception de la toute dernière période, qui est celle d'Edinger, elle a tenu sa ligne vraiment vent debout, qui était « nous nous occupons de l'assistance ». Et nous n'allons pas ailleurs.
Et même, je dirais que même dans les derniers mois, même sous la présidence de Georges Edinger, reste dans les limites fixées par la loi de 1941 et refuse d'impliquer ses salariés dans des tâches policières. Et s'il y a une police juive du camp, elle n'a rien à voir avec l'UGIF. Elle est dirigée par des juifs autrichiens qui cultivent des liens plutôt ambigus avec Alois Brunner.
Oui, et d'ailleurs, on peut, dans la même veine de cette perversité des Allemands, on peut citer Oskar Reich, donc, qui sera un des membres de cette police et qui sera finalement le seul condamné à mort, ouais. Le seul juif. Et c'est la perversion ultime, on pourrait dire.
Enfin, lui, c'était... Je sais qu'on ne doit pas porter des jugements, mais lui, c'était quand même une franche crapule.
Voilà, hein. Mais c'est vrai que symboliquement, voilà, donc, c'est...
Mais symboliquement... Symboliquement, Brunner n'a jamais été arrêté. Aucun DSS du côté de Brunner n'a été condamné à la peine capitale. Et grosso modo, les gendarmes s'en sont assez bien tirés, avec un peu d'indignité nationale, peine dont ils ont été relevés tout de suite pour fait de résistance. Et l'épuration à la préfecture de police a certes puni un certain nombre de personnes, mais pas la totalité de ceux qui avaient été impliqués.
Merci encore. Je rappelle à Annette Vivorca et Michel Lafitte que vous êtes donc les auteurs de ce livre À l'intérieur du camp de Drancy, qui vient de paraître aux éditions Perrin. Et je rappelle qu'une rencontre sera organisée autour de ce livre au mémorial de la Shoah en mai, je crois.
Je pense que c'est même le 2 mai.
2 mai, voilà. Merci encore. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Deux adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radio-rcj.info, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.